Radio Okapi.
Poursuivre les opérations militaires conjointes contre les rebelles ougandais des ADF, c'est la décision prise par les chefs d'état-major des armées congolaises et ougandaises durant la réunion d'évaluation de deux jours qui s'est achevée hier à Beni au Nord Kivu. L'ambassadeur de la Tanzanie à RDC s'est rendu cette semaine à Bukavu au Sud Kivu. Pour lui, il faut appuyer des projets intégrateurs avec la RDC et le Burundi. Projet à financer par des fonds propres des états concernés avec l'appui des opérateurs économiques locaux. Le commissaire supérieur Dieudonné Ngongo Mayanga est notre invité. Le bourgmestre de la commune de Moulekera à Beni parlera du regain d'insécurité observé ces dernières semaines dans son entité, mais aussi des mesures prises pour faire face à cette situation. Bonjour à tous. Au micro, Noëlla Luzitu Kabambi. Au Nord Kivu, les chefs d'état-major des armées congolaises et ougandaises ont décidé de poursuivre les opérations militaires conjointes contre les rebelles ougandais des ADF. Cette décision a été prise au cours de la réunion d'évaluation de deux jours de ces opérations qui viennent s'achever à Beni entre ces deux armées. Au cours de cette réunion de haut niveau qui a pris fin hier, les deux chefs d'état-major des armées congolaises et ougandaises se sont félicités également des résultats obtenus depuis le lancement des opérations en novembre 2021. Le lieutenant-colonel Makazukai, porte-parole des opérations conjointes FRDC-UPDF, explique au micro d'André Kitenge.
Les deux généraux se sont félicités du résultat obtenu, à savoir la neutralisation des terroristes et surtout quelques leaders ont été abattus. Aussi, nous avons réussi à détruire beaucoup de bastions, les principaux bastions de l'ennemi. On est arrivé quand même à démanteler les réseaux de ravitaillement de l'ennemi, puis beaucoup de choses qu'on a réussi à faire. Et les deux chefs ont décidé à ce qu'on puisse poursuivre les opérations jusqu'au résultat final, jusqu'à l'objectif. L'objectif ici, c'est d'anéantir complètement la menace ADF dans la zone. Et il faut qu'on retienne que c'est une menace transfrontalière. Donc la question de ADF est une question sous-régionale. La même menace qui pèse sur cette partie pèse également sur la République de l'Ouganda. Donc c'est pour vous dire qu'on a échangé avec toute franchise. On a abordé toutes les questions qu'un citoyen lambda peut se poser dans la rue. Quand on dit on poursuit les opérations, c'est-à-dire qu'il y aura une nouvelle phase qui va certainement prendre en compte toutes les préoccupations de la population.
En Ituri, ces rebelles des ADF ont encore une fois attaqué ce vendredi matin le village de Mungamba, à environ 100 km au sud-ouest de Bunia, dans le territoire d'Irumu. Bilan de cette attaque, 4 morts. Une autre personne a été renversée pendant l'évacuation au camp des FRDC d'une dizaine de véhicules stationnés sur place en vue d'échapper aux exactions de ce groupe armé. Des sources locales déclarent que les dégâts ont été limités grâce à l'intervention des forces loyalistes après échange des tirs avec ces rebelles qui progresser au centre de cette agglomération qui héberge plus de 10 000 personnes. Isaac Raymond.
Un groupe de rebelles des ADF dont les bastions est installé depuis environ 2 semaines dans cette zone progressait à minuit vers la localité de Mungamba. Pendant leur incursion à l'extrémité du village, ils ont tué 4 personnes dont un nourrisson de 2 mois et 2 femmes, affirmaient des sources locales. Leurs corps ont été découverts ce vendredi matin. Ces hommes armés ont été interceptés par les militaires des FARDC qui étaient en patrouille. Ces derniers ont ouvert les feux sur l'ennemi, suivi des échanges de tirs qui ont duré au moins 1 heure entre les deux parties, précisent des sources de sécurité. Ces détonations d'armes au milieu de la nuit ont créé une panique dans les milieux. Environ 15 véhicules de transport à commun et des camions qui étaient stationnés à Mungamba Centre ont été évacués d'urgence au camp des FARDC sur place pour échapper à l'attaque de ces rebelles. Pendant les manœuvres, un chauffeur a tamponné son aide qui est mort sur les champs. Certains habitants qui avaient fui la nuit ont regagné leur maison ce matin dans cette entité où l'effectif des FARDC est renforcé depuis une semaine, ce qui rassure un peu la population. Cependant, la société civile de ces territoires demande à l'armée de traquer ces rebelles qui ont intensifié les exactions depuis 2 semaines dans cette région. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et puis, dans le territoire de Beni, 7 corps de civils ont été découverts hier jeudi à Alungupa, une localité du secteur de Rwenzori, à 9 km de la route Beni-Kassindi. Selon le président de l'ONG Action pour la paix en Afrique, Isaac Nyoni, qui livre l'information, ces corps en décomposition très avancée sont ceux des cultivateurs tués dans leurs champs par les présumés ADF lors de la dernière attaque attaques dans la région le dimanche 2 avril dernier. Cet activiste des droits de l'homme recommande aux autorités militaires de multiplier les patrouilles de combat dans la région pour traquer les rebelles des ADF qui circulent en toute liberté selon lui. Nous n'avons pas réussi à avoir la réaction de l'armée. Le procès du meurtre des militants de l'UNAFEC, Union nationale des fédéralistes du Congo, a débuté ce vendredi à Lubumbashi. Organisé par le tribunal militaire de garnison de Lubumbashi, ce procès en chambre foraine devrait se dérouler en cercle privé de la SNCC dans la capitale du Cuivre. Retrouvons sur place Jean Gando pour avoir l'ambiance qui y règne déjà.
Dans la salle se trouvent les deux militaires poursuivis pour meurtre, les membres des familles des victimes, les militants de l'UNAFEC, les défenseurs des droits de l'homme et les curieux. Cette affaire qui a beaucoup fait parler d'elle dans tous les sens mobilise aussi les médias locaux. Certaines chaînes de télévision sont présentes pour la retransmission en direct du procès pour lequel plusieurs personnes voudraient connaître ce qui s'est réellement passé dans la journée du 23 mars dernier sur le pont Naviundu. Qui avait tiré, pourquoi avait-il tiré, qui en avait donné l'ordre et quel en est le bilan. Le tribunal militaire de garnison de Lubumbashi tentera donc de faire éclater la vérité au cours de ce procès qui était attendu et réclamé par plusieurs personnes. Pour rappel, le 23 mars dernier, à la hauteur du pont Naviundu, à la limite entre les communes Kampemba et Annex à Lubumbashi, il y avait altercation entre quelques militaires et certains jeunes de l'UNAFEC. Pour le conseil provincial de sécurité, il y a eu une personne tuée par balle perdue et cette autre était morte par noyade après s'être jetée dans la rivière pour se sauver et personne grièvement blessée. Pour l'UNAFEC, il y a eu 21 morts, plusieurs disparus et des blessés. La société civile, quant à elle, a dressé un bilan provisoire de 26 morts. Notons que certains corps repêchés de la rivière et qui étaient en décomposition étaient directement enterrés. Du cercle privé de la SNCC à Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Problématique de la transhumance à Kamanyola dans le territoire de Walungo, Sud-Kivu. Les membres du comité de médiation et de paix du groupement de Kamanyola ainsi que les membres du Barça intercommunautaire d'Ouvira demandent à la GIZ de financer la vulgarisation des textes régissant les agriculteurs et les éleveurs dans la région. C'est l'une des recommandations formulées hier à l'issue d'un atelier d'échange de deux jours à Ouvira et qui avait comme objectif de faire une planification commune des activités dans le cadre du projet Maendele au Pamoja de GIZ. Le conflit entre agriculteurs et éleveurs est apparu dans tous les groupe de travail, mais à Kamanyola, ce conflit a plongé la population civile dans une grande famine. Fiston Goma.
Avec près de 100 000 habitants répartis sur 7 km carrés, la population de Kamanyola vit essentiellement de l'agriculture. Cependant, chaque année culturelle, certaines zones agricoles de ces groupements du territoire de Walungu, dont Kirira, Kabondola et Kaboya, sont dévastées sans merci par le bétail. Le maïs et le manioc sont les cultures les plus touchées pendant la transhumance des bêtes dans ces zones rurales. Les acteurs locaux affirment que souvent, des coups et blessures sont signalés pendant les bagarres entre agriculteurs et éleveurs, un phénomène social qui sera à la base de l'injustice et la terreur dans le milieu. Madame Jeannette Chandazi est membre du comité de paix de Kamanyola.
Les agriculteurs sont souvent victimes parce qu'ils doivent faire vite pour enlever leur culture dans les champs avant la maturation. C'est un problème commun qui est ressorti de Kamanyola jusqu'à Ouvira. C'est mieux que les autorités identifient les pâturages qui sont dans l'axe, planter le fourrage pour le bétail. Il y a des zones vides dans la plaine. Est-ce qu'ils ne peuvent pas planter ce fourrage et ramener tous les bêtes en transhumance vers ces zones et nous laisser la vie aussi, parce que nous avons droit à la vie.
De leur côté, les éleveurs reconnaissent que l'arrêté provincial sur la gestion de ces secteurs n'est pas vulgarisé dans leur milieu. Leur porte-parole Gilbert Kundabera a expliqué ces déplacements des vaches vers Kamanyola par la présence de beaucoup de groupes armés dans la plaine de la Ruzizi. D'Ouvira, Fistongo Mamayaba, la Radio Okapi.
Au Nord Kivu, quelques 250 femmes déplacées du site de Pakanja dans la commune d'Oicha, territoire de Beni, ont reçu hier jeudi une assistance en non-vivre de la Caritas Butembo Beni. Il s'agit spécialement des déplacés et retournés vulnérables en âge de procréer qui ont reçu chacune un kit hygiénique. Cette assistance s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de l'accès aux soins de santé primaire et des luttes contre les violences basées sur le genre dans la zone de santé d'Oicha et de Mutuanga dans le territoire de Beni. Le point avec Guylaine Kassassia.
L'objectif de cette assistance est de redonner la dignité à ces femmes qui sont dépourvues de tout, mais aussi d'assurer leur protection sanitaire. C'est ce qu'a fait savoir François Caputo, point focal de la Caritas Butembobigny.
Il s'agit de kits que nous distribuons pour redonner encore l'espoir, mais aussi la dignité à ces femmes qui, lorsqu'elles sont déplacées, elles n'ont pas la possibilité d'avoir les moyens nécessaires pour remplir convenablement les conditions d'hygiène. Il s'agit de kits qu'on donne uniquement aux femmes vulnérables, mais en âge de procréer.
Ces dons arrivent à point nommé selon les bénéficiaires qui estiment cependant que le besoin reste permanent. C'était un besoin que nous avions parce que nous n'avions pas de bassin pour faire notre hygiène. Vous savez que la femme a besoin de beaucoup de choses. Nous avons aussi besoin d'abri qu'on nous fasse sortir de cette école. Pendant les cours, nous laissons nos affaires à l'extérieur et lorsqu'il pleut, c'est tellement compliqué. Même saut de cloche du côté de Damien Kambalendungo, chef du quartier Pakanta qui héberge ce site des déplacés. Il demande à la Caritas de voir comment soutenir ces déplacés à travers de petites activités génératrices des revenus.
La vie est vraiment pénible pour les déplacés. Que Caritas pense à la création de certaines activités génératrices de recettes.
À noter que Caritas prévoit une autre activité similaire dans les prochains jours, mais cette fois pour venir en aide aux femmes vulnérables de familles d'accueil. Beni Gulen Kassassia, Radio Kapi.
La Tanzanie tient à tout prix à booster les projets intégrateurs entre la RDC, le Burundi et ce pays, évidemment. Déclaration de l'ambassadeur de la Tanzanie à RDC lors de sa visite à Bukavu, province du Sud Kivu. L'ambassadeur cite entre autres sources de financement les fonds propres des États concernés avec l'appui des opérateurs économiques locaux. Jean Kassami.
Les projets intégrateurs en soi concernent trois pays, la RDC, la Tanzanie et le Burundi. D'après l'ambassadeur de la Tanzanie, les projets vont interconnecter les États précités par voie routière, ferroviaire et fluviale dans le but de faciliter le commerce et la circulation des personnes. Un accord a été récemment conclu à Kinshasa entre la RDC et la Tanzanie, d'après l'ambassadeur Saïd Djumamshana, qui revient ici sur les sources des fonds pour matérialiser ces méga projets.
Il y a plusieurs possibilités de mobiliser les fonds. D'abord, chaque pays doit puiser dans ses propres ressources. Ensuite, nous pouvons solliciter et obtenir un crédit solidaire à World Bank Group. Le remboursement ne posera pas problème au regard des ressources que regorgent la RDC et la Tanzanie. Et enfin, nous pouvons recourir au secteur privé parce que les opérateurs économiques sont disposés à accompagner leur gouvernement dans la réalisation de projets intégrateurs.
Il est envisagé la construction d'un chemin de fer qui relie la Tanzanie à la RDC, la construction des ports à Kalemi et à Moba, mais aussi un gros bateau sur le lac Tanganyika. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, le réseau des médias pour le développement REMED vient avec un nouveau projet dans cette province. Ce projet porte sur le renforcement de l'engagement communautaire en faveur de la vaccination et l'amélioration de la demande des services du programme élargi de vaccination de routine dans la zone de santé de Kailo. Selon le coordonnateur national de cette organisation, ce projet financé par l'UNICEF vise à renforcer la sensibilisation des communautés dans le cadre de la vaccination et des pratiques familiales essentielles. Bonane Bougisso a eu des rencontres avec les autorités politico-administratives, sanitaires et des responsables des médias à ce sujet. On l'écoute dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
Notre objectif principal pour la délégation venue, c'est pour lancer officiellement un nouveau projet dans la zone de santé de Kailo. Le projet qui cible 173 cellules d'animation communautaire qui seront mises en place. Et le projet également va former le membre de la Task Force Communication. Le projet va former également les acteurs de médias que vous êtes. Et donc, c'est un projet qui va nécessiter l'engagement communautaire pour renforcer la sensibilisation dans le cadre de la vaccination contre Covid et aussi la vaccination des routines. Donc là, le membre de la communauté qui seront formés, les membres de CAC dans cette zone également de santé de Kailo, seront capables d'aller récupérer également des enfants non vaccinés, ces enfants en conflit avec la vaccination et aussi toucher également d'autres aspects par rapport aux pratiques familiales essentielles. Et en étant ici à Kindu, nous venons également d'être en contact avec les autorités parce que les activités appartiennent aux autorités. Nous, REMED, nous venons en appui au gouvernement.
Actualité internationale.
La Chine a envoyé vendredi des nouveaux navires et aéronefs de guerre près de Taïwan, partie inséparable selon elle du reste de l'État chinois après une rencontre que Pékin refusait entre la présidente taïwanaise et le président de la Chambre américaine des représentants. Pour le deuxième jour consécutif, trois navires de guerre chinois ont sillonné les eaux entourant l'île autonome, a annoncé le ministère taïwanais de la Défense, ajoutant qu'un avion de combat et un hélicoptère sous-marin avait en outre traversé la zone d'identification des défenses aériennes de Taïwan.
L'invité.
Le commissaire supérieur Dieudonné Ngongo Mayanga est l'invité de ce journal. Le bourgmestre de la commune de Moulekera à Bénin parlera du regain d'insécurité observé ces dernières semaines dans son entité. Il s'entretient avec André Kitenge.
Commissaire supérieur Dieudonné Ngongo Mayanga, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
L'insécurité, on en parle toujours dans votre entité, plus précisément au quartier Ngongolio. Monsieur le bourgmestre, qu'est-ce qui se passe au juste sur le plan sécuritaire dans votre commune?
Qu'est-ce qui se passe, messieurs les journalistes? Ça fait plus d'une année que nous sommes ici. Pour rappel, nous sommes venus à une mission spéciale. Donc, l'état de siège qui avait pour mission d'instaurer d'abord l'autorité de l'État, de sécuriser la population et ses biens. Et à notre arrivée, les choses marchaient très bien. Et la population peut en témoigner quant à ça. Mais depuis quelques temps, nous avons assisté encore à une recrudescence de l'insécurité. Comme nous avons la mission de sécuriser la population et ses biens, nous sommes en train de fournir les efforts comme on l'a toujours fait pour que notre population vive dans la sérénité, dans le calme. Peut-être il faut chercher les causes qui font qu'il y a regain d'insécurité dans notre commune et dans les quartiers Ngongolio en particulier. D'après nos enquêtes, la population s'est rendue compte que depuis la mesure de grâce qui a fait que certains détenus soient libérés, alors on a remarqué ces regains d'insécurité-là. Puisqu'on a reconnu parmi ces gens-là qui ont été libérés, certaines personnes dont on avait arrêté à cause d'insécurité qui sont revenues encore à vivre ensemble avec la population. Quand cela ne tienne, messieurs les journalistes, nous sommes en train de travailler chaque jour, nuit comme les jours, pour que cette insécurité soit éradiquée.
La population pointe du doigt accusateur les hommes armés, détenteurs d'armes à feu. Comment expliquez-vous cela?
Vous savez, cet espace Bénin, c'est un espace où il y a donc autant de groupes armés qui sont en circulation dans notre espace. Et à notre avènement, nous avons lutté pour réduire, je ne peux pas dire que pour terminer, pour réduire cette insécurité causée par la plupart qu'on appelle les hommes armés, les hommes en armes. Et nous y travaillons chaque jour aussi pour que la population vive dans la paix et dans la quiétude. C'est ça. Comme cette situation a pris encore de l'ascenseur, nous travaillons chaque jour. Nous faisons des patrouilles, nous faisons des bouclages. Nous faisons aussi des bouclages ciblés, tout comme non ciblés. Donc, c'est le travail que nous faisons chaque jour. C'est ça notre mode opératoire pour que ces règles d'insécurité puissent prendre fin.
Certains de vos administrés se plaignent également qu'en cas d'alerte, en cas d'attaque dans leur quartier, il n'y a pas une intervention. Vous n'arrivez pas à temps pour intervenir afin de mettre hors d'état de nuire ces malfrats. Comment justifiez-vous cela, monsieur le bourgmestre?
Quand la population dit cela, ils peuvent avoir raison. Ils ne savent pas ce que nous éprouvons comme difficulté dans la mission que nous devons à tout prix accomplir. Vous savez, Bénin a le problème des routes qui font que pour que l'intervention arrive à temps réel, il faut du temps. Vous pouvez arriver ici, vous trouvez que non, il y a une rivière là-bas. Le véhicule ne peut pas sauter la rivière pour passer de l'autre côté. Et pendant ce temps, vous êtes en train de chercher, les services sont en train de chercher comment accéder là où il y a les cris de détresse de la population. Ça prend du temps. Ça, c'est de un. De deux, il y a aussi les problèmes logistiques. Ça, on ne peut pas se voiler de face. Donc, il n'y a pas suffisamment de moyens de mobilité qui peuvent faire que nos éléments puissent intervenir à temps réel. Donc, tout ça, sans oublier aussi les problèmes des effectifs.
Donc, la population est abandonnée?
Non, il ne faut pas dire ça. La population n'est pas abandonnée. Puisqu'avec les moyens de bord, nous y travaillons chaque jour et la population ne peut pas dire qu'elle est abandonnée. Non, quels que soient les problèmes des effectifs, mais nous travaillons avec ces effectifs-là qui font que nous puissions quand même arriver à soulager notre population.
C'est quel message lancez-vous à la population, aussi aux autorités de base?
Le message à lancer à la population, c'est le message que nous avons toujours lancé. C'est-à-dire qu'il y ait une bonne collaboration entre nous, autorités, entre nous, services de sécurité et la population. Et la mission, ou bien le devoir que nous avons toujours demandé à la population, c'est de dénoncer tous les cas suspects, dénoncer tous les malfaiteurs, de façon que, une fois si nous sommes informés d'une situation qui se trouve dans tel coin ou bien dans tel quartier, nous allons aussi intervenir à temps réel pour que la population ne puisse pas subir des conséquences négatives. Et puis aux autorités de base, ce sont eux qui vivent avec la population au quotidien. Les autorités de base peuvent aussi aider cette population à entrer à chaque fois en contact avec eux, sillonner chaque fois pour savoir où se trouvent les inciviques, où se trouvent les malfaiteurs, où se trouvent les hommes en armes, afin que l'autorité soit informée et prenne des stratégies conséquentes pour apaiser notre population.
Monsieur le commissaire supérieur Dieudonné Ngongo Mayanga, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier, messieurs les journalistes.